Sexploration. Sexploration sur RCN. Lucille Bach.
Bonjour à toi, chère auditrice, cher auditeur. Bonjour Chloé.
Bonjour Lucille.
Bienvenue dans Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Ici, on parle sans gêne, sans détour et sans excuses. Moi, c'est Lucille et on va discuter ensemble dans ce tout nouveau podcast. Les fantasmes nourrissent notre désir, mais quand ils deviennent des injonctions ou des comparaisons, ça peut vite coincer. Aujourd'hui, on plonge dans ce grand bain d'images, d'envie et de projections. On va parler fantasmes, porno, mais surtout plaisir partagé et communication sincère. Dans un premier temps, dis-moi Chloé, c'est quoi exactement un fantasme sexuel ?
Alors un fantasme sexuel, ça va être quelque chose que tu vas imaginer, désirer et que tu n'as pas forcément réalisé. Donc ça peut être une idée qui va être dans le champ érotique. Alors ça peut être très large. C'est vraiment quelque chose que tu as envie d'expérimenter, que voilà, tu travailles dans ton esprit et qui va peut-être ou pas prendre vie.
Est-ce que tout le monde peut avoir et a des fantasmes ?
Alors ça, c'est une question très difficile. J'ai pas ma petite boule de cristal, mais je pense honnêtement, de mon point de vue, que oui.
Dans la globalité.
Oui.
Pourquoi fantasmer peut réveiller ou booster notre libido ?
Parce que justement, si tu as l'opportunité d'avoir de l'espace mental pour avoir ce moment où tu vas fantasmer, rêvasser là-dessus... C'est que tu as une énergie qui est disponible, c'est que ton quotidien est assez, on va dire, cool avec toi pour qu'effectivement, tu aies l'énergie nécessaire pour avoir le temps de prendre le temps.
Et quand on peut dire que voilà, les fantasmes sont, on va dire, extravagants, est-ce que c'est grave si mes fantasmes ils ne collent pas forcément à ma réalité ?
Non, moi j'ai bien appris avec mon moulot que finalement... Tant que tu l'imagines, c'est possible. Et encore, ton imagination n'est pas assez grande. Parce qu'on a vraiment tous des capacités d'imagination, d'extrapolation, de situation qui est très unique. Et je pense vraiment que ça peut aller au-delà. Moi, les seules choses que je dis toujours, c'est tout le monde peut fantasmer de tout et n'importe quoi. Tant qu'on reste dans la limite de la légalité et du consentement, le reste, on s'en fout.
Exact. Tant qu'il y a du respect, j'ai envie de dire, c'est déjà le principal.
Ça.
Est-ce qu'on peut assumer ces fantasmes sans culpabiliser ?
Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va déjà dépendre de ta région, de ton pays. Est-ce que tu as aussi une éducation religieuse ou pas ? C'est-à-dire qu'il faut savoir que de toute façon, le sexe est politique et normé, qu'on le veuille ou non. Donc effectivement, si tu vas avoir des fantasmes qui ne vont pas coller aux normes de ton pays ou de ta religion... Là, ça va être problématique et c'est là que tu vas avoir cette dualité en toi qui va dire « Mais voilà, oh là, je fantasme de ça, mais si j'en parlais à mon prêtre ou à ma mère ou à mon conjoint, je crois que là, je passerais pour un fou, une folle. »
Je me ferais tacler. Faut-il forcément les réaliser pour être épanoui ?
Pas forcément. Des fois, cet univers du fantasme, elle est bien dans l'imagination. C'est pas toujours... En fait, la réalisation peut être très décevante. C'est-à-dire qu'on se fait une image de la chose... Et à la réalisation, on se dit, bon, bah, ouais.
C'est pas si ouf que ça.
C'est pas aussi ouf que ça, ouais.
Ouais, c'est comme si on avait un grand rêve et puis on arrivait à aboutissement. Puis au final, on fait quoi maintenant, quoi ?
C'est un peu ça. Puis c'est au-delà de ça, c'est se dire, finalement, si on réalise tout, qu'on fait tout, on se retrouve quoi après ? Enfin...
Ouais, dans le vide, quoi. On sait
ouais,
quoi
c'est ça.
Peut-on fantasmer sur quelque chose sans vouloir le vivre, finalement ?
Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets... comme on va dire les catégories de sites porno. Ça ne veut pas dire qu'on regarde, je vais extrapoler la chose, hein, une personne qui, voilà, je ne sais pas moi, fait l'amour en pleine nature, qu'on a forcément, nous, envie après aller en rando et puis se mettre tout nu et puis faire l'amour en rando, quoi.
Ouais, on va tâter le terrain.
C'est ça.
Est-ce que certains fantasmes doivent rester dans notre tête, justement ?
Si on sait qu'ils ne vont pas coller à notre norme sociale et qu'on peut choquer, vaut mieux se le garder. Ce n'est pas une question de « je suis bizarre, il faut que je garde ça ». C'est plutôt les esprits qui peuvent ne pas être ouverts quand on va raconter notre fantasme et du coup nous reclasser encore plus dans le bizarre alors qu'on ne l'est pas. C'est juste qu'on a des fantasmes différents. Mmh. Encore une fois, même si j'ai envie de dire que ça touche à la limite des fois de la légalité,
oui,
tant qu'on y reste... On s'en fout, on garde pour nous, il n'y a pas de problème à ça. On peut vraiment avoir des fantasmes qui peuvent être choquants. Tant qu'on les garde pour soi et qu'on ne les réalise pas, on reste dans la norme.
Ouais, c'est juste simplement qu'il y a certains fantasmes qui ont des limites. Exactement. Légales, juridiques, qu'importe, hein, mais parce qu'il y en a, ils vont très 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 loin. Puis d'autres, voilà, c'est simplement en termes de communication et d'échanger avec la personne en
c'est
face.
C'est ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent choquer en France sur les fantasmes. Par contre, dans d'autres pays, c'est un peu la norme, j'ai envie de dire.
Est-ce que on peut voir aussi une différence entre un fantasme solitaire et partagé en couple?
Je pense que ça reste du même champ. Que tu veux le réaliser avec ton ou ta conjointe ou seul, il n'y a pas vraiment de différence. Ça reste encore une fois cet esprit de l'imaginaire. Et moi, j'aime bien ça. Des gens qui ont des fantasmes. Alors, quand on parle de fantasmes, il n'y a rien d'extravagant. Hein. Ça peut être des choses toutes simples. Mais avoir cet imaginaire, justement, de se dire, bah, tiens, on peut se mettre en situation comme ça, puis on fait faire ça, on peut se rejoindre à l'hôtel. Enfin, des choses voilà, qui ne sortent pas forcément de Saint-Cyr, mais... Ça veut dire qu'on a une imagination, on a une créativité dans l'érotisme qui marche bien.
On va viser un peu la spontanéité finalement dans ce cas de figure où ça peut stimuler plus qu'autre chose. Quoi.
C'est ça, en fait c'est théâtraliser aussi ces moments. Donc pour moi la fantasmagorie est très importante.
Je voulais voir aussi un peu, on a parlé de porno il y a très peu de temps, je vais rebondir sur ça. En quoi le porno y façonne nos représentations aujourd'hui du sexe?
Bah, ça va être un petit peu comme, je prends toujours cette comparaison de quand on a été élevé au Disney, ou après on regarde Desperate Housewives, et puis finalement on a envie d'être Brie Van de Kamp ou un autre personnage. On va finalement essayer de s'identifier ou d'aller dans cet univers pour se dire bah, finalement, ouais, c'est chouette, moi aussi j'aimerais bien être comme ça, etc. Ah, bah, là il fait ça comme ça veut dire que forcément c'est possible, parce que sinon ce serait pas à l'image, on dirait que ce serait sur le dark web. Si c'est possible de le voir sur ces sites porno là, donc c'est que c'est réalisable, on peut le faire, etc. Pour moi je suis pas contre le porno du tout, parce que ça peut être quelque chose qui est très bien, je veux dire, c'est notre univers à nous, tant qu'on l'impose pas aux autres on s'en fiche. C'est simplement le faire avec intelligence, c'est se dire que effectivement il y a des choses qu'on voit qui sont réalisables, d'autres pas du tout. Et que c'est pas parce qu'eux font comme ça que nous on doit faire pareil.
Totalement. Quelles images du désir sont surreprésentées et lesquelles sont absentes?
Bon, on a les catégories un petit peu classiques de la femme un peu soumise, voilà, qui va être en pluridisciplinarité en petit.
En sandwich, hein, on va le dire.
Voilà, où cette dame va être très occupée, etc. On va vraiment avoir des images où ça va être des fois rabaissant. Alors, quand je dis rabaissant, je prends encore une fois des pincettes, parce que ça peut plaire à des femmes aussi. Je veux dire, tout est possible. C'est simplement qu'il faut se dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de contenu où la femme va être dans cette position soumise que c'est le cas pour toutes les femmes.
Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a un rapport domination-soumission qui est exposé que c'est forcément
comme ça que ça doit se passer dans un couple, dans la vie réelle.
Complètement. Et justement, ces images sont aussi certaines absentes. Ce seraient lesquelles?
Alors, des images absentes, ça va être souvent des corps normaux. Il faut savoir quand même que sur les tournages de pornographie, il y a des maquilleurs d'effets spéciaux.
Totalement.
Il y a des gaines de pénis, où c'est pas des vrais pénis qu'on voit à l'écran. Ça peut être aussi des vulves qui vont être liftées. Ça peut être des anus blanchis. C'est vraiment, finalement, encore une chose, on maquille des acteurs. Ça reste des acteurs.
Oui, c'est scénarisé de toute façon.
Exactement. Donc, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des corps qui sont plus ou moins toujours beaux. On a des membres d'une certaine taille. C'est finalement reprendre la base des choses en disant, mais c'est des castings qui passent. Donc, les castings, c'est le même que Brie Van de Kamp, mais sur d'autres...
sur d'autres terrains.
Voilà, exactement.
Le porno, est-ce qu'il met justement trop de pression sur la performance?
Oui, parce que les hommes vont s'identifier, vont dire, regarde les pénis qu'ils ont, le mien n'est pas si grand. La femme, regarde, elle jouit 30 000 fois. Le plus souvent qui revient, c'est femme fontaine. Oh, je suis pas fontaine, ouais. Mais quel malheur, etc. Mais fontaine, exactement. Fontaine, oui, mais ça, encore une fois, ça peut être des effets spéciaux dans ces tournages-là. Et il faut reprendre, moi j'aime bien dire toujours, la base des choses. Qu'est-ce que le porno, finalement?
Totalement, oui.
Le porno, finalement, ça ne servait qu'entre guillemets à des images commerciales pendant la guerre, pour que les soldats voient un petit peu ce qui se passait dans la maison close. C'était un petit peu le line-up, on va dire ça comme ça, de ce que ce qui pouvait être retrouvé comme dame à l'intérieur. C'était ni plus ni moins que l'image promotionnelle.
Mmh, complètement, ouais. Est-ce qu'on peut distinguer le fantasme pornographique de la réalité intime ? Bon, il y a déjà un peu la réponse dans la question, mais sur ta conception à toi ?
Sur ma conception à moi, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie ? Ou c'est parce que je l'ai vu et que finalement je pense que ça peut être bien ? C'est vraiment, encore une fois, se poser la question de manière personnelle en se disant mais j'ai vu ça, est-ce que moi j'en ai vraiment envie ? Est-ce que ça m'excite vraiment ? Est-ce que ça me provoque quelque chose ? Ou je le fais parce que ça fait viril ou ça fait nana très libre de le faire, etc. C'est toujours se poser des questions de ses propres limites et besoins.
Est-ce qu'un couple peut regarder du porno ensemble, mais de façon saine, en l'occurrence ?
Bien sûr. Comme des personnes seules, hein. Mais les couples peuvent totalement regarder un porno pour s'exciter, etc. Ça reste, enfin, tout est possible dans la sexualité, la sexualité, c'est ce qui vraiment est très libre, mais en se disant que forcément il y a encore une fois des barrières de normes sociales, juridiques, etc. Mais outre ça, bah, chacun fait son lit comme il se couche.
Ouais, on n'est pas obligé d'être forcément seul quand on regarde un porno, on peut le faire à deux.
Et comme on n'est pas obligé d'avoir un sextoy parce qu'on regarde un porno ou qu'on fait l'amour, etc.
Exactement. Comment on déconstruit les stéréotypes pornographiques, justement ?
Moi, je pense que le meilleur exercice pour ça, c'est d'en regarder quand on n'est pas du tout excité et qu'on n'est pas du tout dans l'ambiance. On regarde le film et en général, c'est là qu'on voit un peu tous les trucs un peu aberrants. Mmh. Des femmes qui hurlent alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Des hommes qui vont lâcher 3 litres de sperme alors que c'est clairement physiologiquement impossible à faire. Il y a toujours effectivement dans une éjaculation une différence entre un homme ou l'autre. C'est, on n'a pas tous le même liquide qui va sortir. Mais ça montre bien que c'est parfois ridicule finalement le porno. C'est surjoué, des fois très mal joué. C'est pas du tout la réalité. Alors, il y a quand même du porno amateur, mais la règle en général, c'est que c'est pas si incroyable que ça.
Oui, et puis souvent, ils nous présentent en fait, des contextes ou des scènes en fait, complètement décalées, avec par exemple ce rapport un peu toxique qu'a la domination de l'homme sur la femme aussi durant l'acte, où on va, entre guillemets, forcer ce rapport. Et ça, par exemple, je trouve que c'est beaucoup dans les films aussi, notamment sur les scènes de sexe, etc. Je trouve que des fois, c'est un peu trop forcé.
Alors, c'est trop forcé, le trait est trop forcé. Mais encore une fois,
c'est bad boy, tu vois.
Exactement. Il y en a beaucoup, effectivement. Peut-être trop. C'est vrai que le porno, on dit qu'il n'est toujours pas assez féministe. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes à qui ça plaît.
C'est vrai.
Cette dominance, cette violence, le sado et le masochisme existent aussi, bien aussi pour la femme. Et c'est au contraire plutôt féministe de dire que c'est possible, ça existe. Mais encore une fois, il faut voir avec qui c'est tourné, quels acteurs et dans quelles conditions. Et une fois que les choses là sont réunies, où finalement c'est un bon porno qui a bien été tourné, avec vraiment un grand respect de l'actrice et tout ça, si l'actrice, elle, a vécu un très bon moment, qu'elle est contente de sa performance, que l'acteur a respecté et qui a été très bon dans sa performance, on ne peut pas non plus les brider, quoi.
Ah, mais complètement. Est-ce que le porno altère notre capacité à ressentir du désir, mais dans la vraie vie cette fois ?
Plus on va haut dans tout ce qui est images, etc., dans les façons de faire, plus finalement on va vouloir aller haut, en se déconnectant, juste en se disant, ça me fait ressentir encore plus. C'est un petit peu quelqu'un qui va avoir le permis moto, moi je vois ça avec la moto par exemple, au départ on a envie de faire le fou, comme avec le permis, on a envie de faire
un truc de dingue.
Voilà, un 200 sur l'autoroute, on sait que c'est pas bien, on sait qu'on se met en danger, mais c'est cette espèce d'adrénaline. Comme quelqu'un qui monte sur le ring, il sait qu'il y a un risque, mais il le prend ce risque, effectivement. Le porno, c'est exactement la même chose. C'est qu'on va toujours aller chercher plus loin. Donc ça, c'est à prendre en compte que plus on va aller loin, après, quand on roule la moto en 200, on va clairement pas aller rouler en Clio 2, quoi.
Non, on risque de clamser en chemin, surtout. Justement, ça m'évoque un peu tout ce qui va être relié à la frustration, au niveau des fantasmes qu'on peut avoir. Parce qu'à force de vouloir aller trop loin, en fait, soit on va pas pouvoir y aller, justement, et ça va créer des freins. Et là, on va un peu créer et générer une sorte de frustration avec soi-même, voire parfois avec le ou la partenaire. Pourquoi la réalité sexuelle ne ressemble-t-elle pas souvent à nos fantasmes ?
Tout simplement parce que c'est hors sol ce qui se passe. La réalité de terrain, c'est que eux, c'est leur métier, ils font ça. Ils sont payés pour, ils sont performants là-dedans. Et à côté, ils ne travaillent pas à la caisse de chez Auchan, ou ils ne déplacent pas 100 kilos par jour, ou ils ne font pas 30 000 bornes aller-retour par jour, si voilà, c'est un métier où tu prends ta bagnole. Donc effectivement, la réalité de terrain, elle est déjà là. C'est qu'il y a l'épuisement des corps, il y a une relation d'amour dans un couple, ou avec des partenaires, mais il y a quand même du respect, etc. Il y a vraiment des sentiments. Les acteurs, il n'y a pas de sentiments. On peut bien s'entendre, on peut être potes en dehors du plateau, mais c'est tout. Donc il y a ces limites-là, il y a les limites physiques aussi, où on ne pourra jamais de toute façon être comme des acteurs porno. C'est vraiment, encore une fois, se dire, c'est des gens qui ont une...
Un rôle en fait.
Oui, c'est comme des sportifs finalement, ils se sont entraînés là-dedans. Ils ont fait des... j'extrapole un peu, mais des cours de théâtre, ils ont fait vraiment de la scène pour se dire, finalement, je suis performant. Et c'est pour ça que ça fonctionne et que personne ne peut... parce que tu arrives et que tu te mets nu, être forcément actrice porno. C'est bien pour ça qu'on a 30 milliards de comptes My OnlyFans qui ne fonctionnent pas, et qu'il n'y en a que quelques-uns qui sortent du lot, parce qu'il y a la performance qui doit être là.
Et justement, on va poursuivre dans cet état d'esprit, comment on faire quand l'excitation mentale n'est pas suivie du plaisir physique? Alors là, je parle pour toute personne, tout individu lambda.
Donc tu peux un petit peu développer ta question, peut-être?
Là, en l'occurrence, quand tu vois, par exemple, t'es dans un rapport sexuel et tout avec ton ou ta partenaire, t'as l'excitation mentale, mais t'as pas le corps qui suit.
Alors, c'est qu'il y a, là, c'est qu'il y a un gros travail de, on va dire, de, on enlève la pelote et ouais. Là, on tire fil par fil, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Si t'as une excitation mentale et que le corps ne suit pas, effectivement, comme on l'a déjà dit dans des épisodes précédents, soit il y a un handicap, soit il y a quelque chose qui est vraiment la physique pour
la
le
dissociation,
coup.
Etc.
Exactement, où là on a des douleurs corporelles, etc. Donc ça c'est différent. Mais c'est encore une fois, finalement, cette excitation mentale, qu'est-ce que je peux en faire? C'est pas rester dans sa frustration et c'est essayer d'avancer avec ses limites, bien évidemment, limites et besoins, mais c'est toujours se dire, je dois pas me contenter de me dire je suis pas capable de. On est toujours capable de faire quelque chose dans l'érotisme. La sexualité pénétrative, encore une fois, c'est pas elle qui va donner... Faut mettre un peu l'église au milieu du village. Hein. C'est, la pénétration, elle est possible que par excitation. Donc si on n'a pas toute cette excitation que le corps ne veut pas, ça ne sert à rien de forcer, ça ne marchera pas de toute façon.
Est-ce qu'un fantasme non partagé, il peut devenir un poids dans la relation, justement?
Oui, parce qu'on va se dire, bah, entre guillemets, je ne comprends pas pourquoi il regarde des trucs comme ça... Moi, je regarde ça quand je suis toute seule et finalement, s'il le voyait, là, ça irait pas. On prend des termes et exemples. Ça va être un homme qui aime bien voilà, se travestir quand sa conjointe n'est pas là. Bah, s'il savait qu'elle tombait dessus, je suis pas sûre qu'il se dirait ouais, t'es trop beau, mon chéri. Ça, il va y avoir un choc, il va y avoir une discussion. Ça peut être accepté, hein, bien évidemment, mais ça va prendre un cheminement. On peut choquer dans ce qu'on va dire.
Oui, puis un peu, des fois aussi, ça c'est. Ce que moi j'entends le plus souvent dans mon entourage, malheureusement, il y a ce côté un peu réfractaire aussi du mon compagnon, parce qu'en l'occurrence moi je suis une femme, donc majoritairement hétéro au niveau des couples qui m'entourent, mon compagnon il fait souvent ça seul, à regarder du porno, je comprends pas, je le satisfais pas, et ça revient souvent, mais c'est pas parce qu'on regarde du porno qu'on n'est pas satisfait au lit avec son ou sa compagne en fait.
Non, pas du tout, c'est encore une fois, c'est besoin, et puis c'est... aussi et des fois une conversation avec son conjoint à avoir, à dire mais pourquoi tu regardes ça, essayer de comprendre ce qui se passe pour que effectivement il y a cette consommation de porno qui est là, combien de temps il regarde finalement par jour, par semaine, qu'est-ce que ça représente, pourquoi il le fait. On parle souvent, alors c'est je sais que ce terme là n'est pas forcément apprécié par tout le monde et ça c'est vraiment une idée personnelle, mais moi j'appelle ça de la masturbation d'ennui. C'est-à-dire que les hommes vont avoir un peu plus tendance à avoir des masturbations dans le muscle. Je ne sais pas trop quoi faire. Bon, bah.
Je passe le temps, quoi.
Voilà, je regarde un porno, je me masturbe, je me suis fait du bien, j'ai pris mon plaisir un peu fast-food. Et puis on passe à autre chose. C'est pas être dénigrant ou caser les choses de façon. Toi, t'es un homme, donc forcément tu fais ça, et toi, t'es une femme, forcément tu fais ça. C'est simplement qu'on est différent dans notre conception. C'est-à-dire si on est deux sexes différents, c'est qu'il y a bien des différences. Et on n'a pas forcément toujours ces mêmes façons de marcher. On dit souvent, alors ça c'est encore pareil, c'est de façon généraliste encore une fois, on dit souvent que les femmes sont plus émotionnelles quand un homme, lui, est un peu plus...
Dans le physique, on va dire, dans l'action.
Ouais, mais je dirais même pas ça, c'est cartésien logique.
Ouais.
Donc un homme, lui, il va dans sa logique. Il a envie, porno, masturbation, fini, on passe à autre chose.
Ouais,
une
pas
femme,
forcément.
Pas forcément. Ça va être beaucoup plus dans l'émotionnel, si elle a envie... bah elle, si le stress est là, bah ça va pas pouvoir forcément le faire. Un homme, souvent, c'est Paul Desmoindre qui dit ça, et j'adore cette phrase, c'est les femmes font l'amour quand elles sont détendues, quand les hommes font l'amour pour se détendre. Ça montre bien que c'est une méthode complètement différente.
Ouais, c'est
si ça nous plaît pas que notre compagnon regarde du porno, si on ne peut pas accepter, il faut absolument débunker la situation, savoir pourquoi et remettre un peu l'église au milieu du village en se disant mais quelle connaissance il a de ce porno quand il le regarde. Est-ce que vraiment c'est des choses que lui l'excite pour quand il regarde, ou c'est juste du scrollage un peu à la TikTok ou quoi, et je fais pas attention, c'est juste comme ça.
Ouais, c'est un shoot de dopamine quoi, on va dire.
Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre à la limite?
Et encore, cette vision-là, je trouve que c'est très appliqué par la norme en fait sociétale qui nous a été imposée sur le schéma du, comme tu viens de dire, l'homme agit, on va dire, dans l'acte sexuel s'il a envie, et puis nous, on est plus reliés aux émotions. Au final, quand on regarde, on reste des individus à part entière, on a chacun nos propres émotions, et là, on rentre dans le sujet sur, en fait, on oublie qu'on a aussi des sentiments, chacun, homme ou femme, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on... je suis ni... pro-homme ou pro-femme, c'est-à-dire que pour moi, l'équilibre, il se passe déjà dans le respect des deux sexes. Et c'est se dire, mais finalement, pourquoi déjà un homme va aussi me demander beaucoup plus de faire l'amour? Pourquoi quand il va avoir une panne d'érection, ça va être le monde qui s'effondre? Bah, en fait, il faut simplement reprendre l'histoire. C'est que les hommes, on leur a dit, maintenant, toi, t'es un bonhomme. T'es musclé, tu fais du sport. Ça, Eddie Depreto a sorti une musique où voilà, tu seras viril, mon kid. Bah finalement, c'est comme ça qu'on a élevé un homme. Ouais. Donc, le patriarcat et tout ça, il vient de quelque part. Donc, on ne s'apprend pas 10 ans à s'enlever. Donc, il y a encore tous ces rituels, ces gestuels-là qui ont été hérédités, qui ont été philo-hérédités, j'ai envie de te dire.
Ah, mais complètement.
Donc, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi. Et effectivement, les hommes aussi, et là, je sais que je vais fâcher du monde quand je vais dire ça, mais les hommes aussi sont victimes d'une représentation qui leur est fausse, induite. Ou quand bah, ils ont une panne d'érection, bah, c'est compliqué pour eux de la gérer parce qu'on leur a dit « tu seras toujours viril ».
Oui, et puis il faut les écouter simplement. Eux aussi,
oui,
ils ont des émotions
sûr.
Et eux aussi, ils ont à dire des choses en fait, à ce
effective.
Niveau-là. Est-ce que justement, certains fantasmes ils viennent nourrir nos insécurités du coup?
Bah, bien évidemment, parce qu'on va se dire, bah, je vais prendre un exemple, un homme qui va vouloir un plan à trois, par exemple.
Le classique.
Le classico-classique va vouloir un plan à trois. Il veut réaliser ce fantasme-là et au moment T, grosse panne d'érection, il n'y arrive pas.
Panique.
Il va se dire, bah, finalement, je suis impuissant. Mais non, ce n'est pas une question d'impuissance. Ce n'est pas parce qu'on a une panne qu'on n'est plus un homme. On n'est plus viril, qu'on ne peut plus être érotique. C'est simplement décoder pourquoi mon corps. Bah, finalement, c'est peut-être beaucoup d'émotions d'un coup. Mon cerveau se mélange un peu les pinceaux parce que ouais, y a trop d'excitation d'un coup. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, le cerveau va surréagir dès qu'il y a un stress. Bah, il va tout éteindre finalement parce qu'on n'est plus dans le schéma, encore une fois, du plaisir.
Merci Chloé. Maintenant, on va écouter You Are The One du groupe AA. On se retrouve dans quelques minutes.
I'm
RCN, Sexploration, Lucille Beck.
Précédemment, nous échangeions sur le fait que quand fantasme rime avec frustration, il est temps d'ouvrir le dialogue et donc d'inventer un terrain de jeu qui nous ressemble vraiment. On va se pencher un petit peu justement sur cette sphère en termes de communication, comment on peut créer un espace sécurisant pour se livrer.
Mais ça va vraiment être... Mes désirs, mes fantasmes ne sont pas bizarres, ne sont pas trop ou pas assez. C'est simplement se dire, est-ce qu'avec mon compagnon, on peut les explorer ou pas? Donc ça va être vraiment un peu du jeu à avoir. Il y a beaucoup de jeux de cartes, etc., comme dans Complice Shop, Served, ce genre de choses, ou le cahier d'exploration de Capucine Moreau, pour moi, qui est un bon moyen de communiquer là-dessus.
Et justement, comment on peut explorer ensemble sans se forcer ni se juger?
Mais ça va être pas forcément les mettre en application pour savoir. Ça va effectivement d'être en parler, de jouer justement avec ces jeux de cartes, etc., pour pouvoir en discuter, savoir si ça va bien être perçu, si c'est possible ou non. Et si ça ne l'est pas, se dire « bon bah on fait entre guillemets le deuil de ce fantasme et c'est pas très grave ».
Justement, on va essayer de se trouver son propre langage érotique, le partager avec son ou sa partenaire. Comment co-construire un imaginaire érotique avec son conjoint, sa conjointe?
Alors forcément avec du temps, des espaces un petit peu rituels pour le couple. Et c'est se dire, dans ces moments-là, on a le droit d'y aller à fond. C'est-à-dire qu'on a le droit de théâtraliser un petit peu notre endroit. On a le droit de sortir un petit peu du cadre et se dire, voilà, on a déjà bien parlé des limites et possibilités de chacun. Maintenant, on fait ce qu'on veut et on s'en fout. Il y a personne qui vous regarde dans le placard, promis.
Il n'y a pas de caméra, sauf si vous avez envie.
Voilà, exactement.
Comment cultiver une sexualité alignée avec ses valeurs et ses désirs profonds?
C'est justement s'éloigner un peu de tous ces clichés pornographiques, etc. Du bon porno, il n'y en a pas beaucoup.
Non, c'est vrai.
Je vais pas faire de jaloux, donc je citerai aucune actrice ou acteur porno, mais il y a vraiment des très bons acteurs où pour moi là c'est quelque chose de qualité. Il y a vraiment des réalisateurs qui font des bonnes choses. C'est toujours le prendre avec intelligence, c'est encore une fois se mettre un petit peu en arrière et se dire qu'est-ce qu'on fait de ce porno, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi, est-ce que c'est de la pornographie ou c'est juste vulgaire.
Oui, sauvage.
Oui, ça peut être sauvage, hein.
Complètement.
Ça peut être bien quand même.
Peut-on guérir ou transformer notre imaginaire sexuel avec le temps?
Bien sûr. Pour moi, la sexualité, c'est une bouteille de vin.
Ah bah, on est d'accord. Hein.
On prend vraiment le temps d'explorer, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et tout bouge. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas parce que, on va parler cru, mais c'est pas parce qu'on a adoré la levrette pendant 10 ans que 10 ans après, on aimera toujours ça. C'est vraiment, encore une fois, toujours du tâtage de terrain pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas.
On renouvelle un petit peu le panel et tout ça. Ouais.
Et même si des fois on fait comme ça depuis 40 ans et que ça nous va très bien, c'est parfait.
Bah, tant mieux. Et quel rôle joue l'amour de soi dans l'épanouissement sexuel? On terminera par cette question.
L'amour de soi, il va être dans surtout ne pas se laisser faire. C'est je ne mérite pas forcément, donc il aime ça, je le trouve trop beau, je la trouve trop belle, donc je vais accepter. Et en fait, accepter des choses qu'on n'est pas du tout d'accord finalement, et on s'en rend compte plus tard parce que sur le coup, on n'a pas été assez lucide parce qu'on s'est laissé aveugler. Et finalement, on se dit, tiens, j'ai tourné cette vidéo, cette sextape que je voulais faire avec lui sur le moment, où on était tous les deux
consentants,
plus ou moins consentants. Et finalement, je me rends compte que je regrette.
Mmh. Savoir poser en fait ses limites et ses besoins, parce que c'est dans les deux sens. Quoi.
C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en soi que tout nous interdit. On a les mêmes droits que tout le monde, et c'est surtout se dire... Justement, je sais que j'ai pas confiance en moi, donc je dois être encore plus vigilante à ce qu'on ne m'impose rien ou je ne suis pas consentante ou consentant dedans.
On est bien d'accord. Et ben en tout cas, merci Chloé pour ce bel échange sur ce sujet.
Mais de rien, Lucille.
Ça vous a plu, chers auditeurs? Surprise, ce n'est que le début. Si cet épisode t'a fait vibrer, alors fonce, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine avec Sexploration. On se dit à bientôt dans un prochain épisode. Bisous, bisous.
Bisous.